C'est donc l'heure du journal, présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les ors du château de Versailles pour attirer les multinationales. Le chef de l'État accueille ce soir 140 dirigeants de grands groupes étrangers pour les convaincre d'investir en France. Les gardiens de prison toujours mobilisés pour une amélioration de leurs conditions de travail. Les syndicats ont été reçus par la ministre de la Justice. Les discussions doivent se poursuivre. Le vice-président américain Mike Pence annonce l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem avant la fin 2019. Mahmoud Abbas, de passage à Bruxelles, appelle l'Union européenne à reconnaître rapidement la Palestine comme un État indépendant. L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont, officiellement candidat à la présidence de la Catalogne, il affirme qu'un gouvernement sera formé prochainement. Choose France, choisissez la France, c'est le message adressé aux quelques 140 dirigeants de multinationales accueillis au château de Versailles. Le gouvernement français se mobilise pour convaincre ses investisseurs qu'avec l'assouplissement du code du travail et l'allègement de la fiscalité sur le capital, la France est le pays où il est judicieux de se développer. Et dès cette nuit, la première annonce est tombée. Facebook compte investir 10 millions d'euros dans l'Hexagone via son centre de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Deuxième bonne nouvelle, venue cette fois de Toyota. Le constructeur automobile s'engage à investir 300 millions d'euros et à créer 700 CDI dans son usine d'Onin, dans le Nord. Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Le reportage de Solène Lehen.
L'image la plus forte de cet après-midi, c'est celle de Luciano Biondo, le directeur de l'usine, ému aux larmes devant ses salariés.
Nous sommes aujourd'hui en mesure d'annoncer le lancement officiel du projet de modernisation du site. Cela signifie concrètement un investissement de 300 millions d'euros et la possibilité de créer à terme 700 emplois en CDI dès que le site aura atteint son ambition.
300 millions d'euros d'investissement. Avec l'émotion, le directeur du site oublie même les 100 millions supplémentaires qui seront dédiés notamment à la formation. Pour Emmanuel Macron, en revanche, aucun discours. Le président a laissé la primeur de cette annonce à Toyota, se contentant de visiter l'usine. Une visite plébiscite entre applaudissements et selfies.
Comment allez-vous? Vous allez bien,
Monsieur le Président?
Mais Emmanuel Macron fait néanmoins passer son message lors de ses échanges avec les salariés.
Vous faites quoi là?
Oh là, la qualité,
l'ADN de Toyota, monsieur Macron.
C'est parce que ils savent qu'on fait bien ici, qu'ils réinvestissent. Hein.
Montrer que la France accueille déjà les investisseurs étrangers et qu'on peut y gagner de l'argent, pas besoin de grands discours, c'est l'image qui importait cet après-midi chez Toyota. Emmanuel Macron espère que cette image, cette photo d'une France triomphante suffira à convaincre les 140 PDG étrangers réunis ce soir à Versailles.
Et voilà, car après les ouvriers d'Onin, le chef de l'État rencontre ce soir des grands patrons du monde entier. Deux jours avant le forum de Davos, le président français voulait frapper les esprits, montrer qu'il fallait compter avec la France. Une opération de com' assez réussie, Catherine Pétillon.
Oui, avec l'objectif de convaincre que la politique de la France en faveur des entreprises attire les multinationales. Première réussite sur leur route pour Davos, 140 dirigeants du monde entier ont fait le détour par Versailles. L'Élysée, décidé à faire la démonstration des retombées concrètes pour le territoire, a obtenu que plusieurs projets d'investissement soit dévoilé ou confirmé à l'occasion de ce sommet. Vous le disiez, Facebook, Toyota, mais aussi Novartis. Le groupe pharmaceutique a confirmé son plan d'investissement sur 3 ans de 900 millions d'euros en essais et recherches cliniques. En tout, les projets attendus devraient représenter 3,5 milliards d'euros sur 5 ans. Alors, toute l'après-midi, les dirigeants internationaux ont participé à un exercice de séduction bien huilé, au programme des conférences sur l'intelligence artificielle ou encore les JO, des moments dédiés au réseau entre décideurs ou des échanges avec les 16 ministres présents, dont 3, Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud et Mounir Majoubi, chargés plus particulièrement de présenter les réformes, à savoir les ordonnances travail et les mesures fiscales, comme l'accélération de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Le sommet a aussi été l'occasion pour le gouvernement de faire de nouvelles annonces en faveur des entreprises étrangères, comme l'exonération temporaire d'affiliation au régime de retraite pour les impatriés, ces cadres internationaux qui bénéficient déjà d'un régime fiscal très avantageux. Un plan d'amélioration de l'offre scolaire internationale en Île-de-France est également prévu. Des mesures saluées par Paris Europlace, organisation de promotion de la place financière de Paris. Emmanuel Macron, lui, est attendu à Versailles en fin d'après-midi. Incessamment, il viendra remercier l'ensemble des patrons présents lors d'un discours de clôture.
Catherine Pétillon, Emmanuel Macron qui se rendra en Corse le 6 février. Il s'agira d'une visite essentiellement commémorative à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Aujourd'hui, le Premier ministre reçoit Gilles Séméoni et Jean-Guy Talamoni. Fort de leur large victoire aux élections territoriales, les dirigeants nationalistes corses ont de fortes attentes, comme la co-officialité de la langue corse avec le français, un statut de résident corse permettant de protéger les insulaires de la spéculation immobilière ou encore l'amnistie des prisonniers dits politiques. Pour l'instant, Matignon a simplement indiqué que l'état d'esprit était au dialogue. Des dizaines de prisons étaient à nouveau bloquées aujourd'hui. Les gardiens de prison ont voulu montrer leur détermination avant la rencontre entre leurs organisations syndicales et la garde des Sceaux. Ils dénoncent les agressions dont certains d'entre eux ont été victimes et plus généralement leurs conditions de travail, rappelant aussi avec insistance leurs revendications salariales. Les premières discussions n'avaient pas abouti, elles ont donc repris et vont encore se poursuivre demain, Antoine Maret.
Effectivement, la ministre a rencontré cet après-midi les différentes organisations syndicales représentatives pendant 2 heures et elle l'a reconnu elle-même, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Nicole Belloubet a rappelé son soutien au personnel pénitentiaire, elle a souligné leurs difficiles conditions de travail, agressions, tentatives d'assassinat, des faits graves et inacceptables selon la garde des Sceaux. Celle-ci rappelle qu'elle a tendu la main aux organisations syndicales en faisant plusieurs propositions sur la sécurité, en évoquant la mise à disposition de nouveaux équipements pour le personnel, la gestion des détenus radicalisés avec la mise en place de quartiers spéciaux pour ces détenus, sur l'emploi avec la création en 4 ans de 1100 emplois de surveillants supplémentaires. Mais ces propositions ont été rejetées par le personnel pénitentiaire la semaine dernière, ce que Nicole Belloubet regrette du bout des lèvres. Aujourd'hui, la rencontre avec les organisations syndicales s'est apparentée à un dialogue de sourds. Ce qui coince en particulier, c'est la question indemnitaire, reprise donc des négociations demain, avec bien sûr cette questions indemnitaires, les questions de sécurité et les questions sur l'emploi. Côté syndical, on annonce une poursuite, voire un durcissement du mouvement demain. La police et la gendarmerie vont continuer à remplacer les surveillants pénitentiaires. Info réclame 200 millions d'euros sur 4 ans. Il faut rendre cette profession attractive pour empêcher de nouveaux départs et attirer de nouveaux candidats, a affirmé le syndicat, qui réclame également le droit pour les gardiens de détenir un taser pour prévenir les agressions. L'UFAP-UNSA évoque même des menaces de sanctions sur les personnels, incompatibles ces menaces avec les négociations. L'organisation syndicale réclame des engagements forts du gouvernement. Pour l'instant donc, chacun campe sur ses positions et aucune sortie de crise ne se profile.
Antoine Maret en direct de la place Beauvau avec Yvan Turc à la technique. Depuis ce matin, les futurs bacheliers qui souhaitent poursuivre leurs études peuvent exprimer leurs vœux pour l'an prochain. La nouvelle plateforme Parcoursup est opérationnelle. D'après le ministère de l'Enseignement, elle doit permettre de mieux répondre aux vœux des candidats qui ont jusqu'au 13 mars pour s'inscrire. Mais une grande partie d'entre eux ne savent pas encore vraiment quelle formation choisir. Certains ont été traumatisés par APB, d'autres redoutent les fameux attendus, les prérequis pour accéder à certaines filières. Pour les aider, la région Île-de-France et l'ESSEC Business School viennent de lancer le premier MOOC d'orientation post-bac intitulé trouvetavoie.net. Ce cours en ligne gratuit et ouvert à tous permet d'acquérir des connaissances et de développer des compétences clés pour choisir sa voie. Le reportage d'Hakim Kasmi.
Disons-le tout de suite, pour s'orienter, il n'y a pas de processus magique, ni de déclic miraculeux. Ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard. Bio-informaticien.
Informé, rassuré, grâce à des vidéos ludiques, c'est l'objectif du MOOC Trouve ta voie. Aujourd'hui, 40% des lycéens ne savent toujours pas quelle formation choisir, comme Paul en terminale scientifique.
Je ne sais pas vraiment quoi choisir dans toutes les possibilités parce qu'il y en a beaucoup.
Il faut dire qu'avec plus de 12 000 formations possibles, choisir sa voie reste compliqué, d'où l'importance de se poser les bonnes questions pour Sandy Meunier, responsable du projet à l'ESSEC Business School.
Est-ce que je suis prêt à partir de chez mes parents? Est-ce que je peux envisager des études qui vont me coûter beaucoup d'argent? Est-ce que je suis prêt à travailler pendant mes études? Donc tout un tas de questions qui peuvent être très pratiques, mais aussi des questions plus centrées sur ce que je suis finalement et ce que je sais de moi.
Mais au-delà de ces conseils, trouver sa voie reste encore plus compliqué pour les élèves issus des quartiers populaires, selon Philippe Dive, enseignant en sciences et vie de la Terre, également professeur principal en terminale en zone d'éducation prioritaire en région parisienne.
On voit les familles dans d'autres lycées, les familles qu'on dit initiées, qui anticipent des parcours. Hein. C'est des jeunes qui, dès leur plus jeune âge, ont déjà un parcours qui est tracé, avec toutes les clés, les codes, les implicites qui sont parfaitement donnés à ces jeunes-là. Et puis, dans les milieux plus populaires, des jeunes qui avancent année par année, sans voir plus loin que l'année suivante, jusqu'à finalement utiliser l'année de Bac plus 1 comme une année d'orientation.
Enfin, rappelons qu'avec 60% d'échecs en première année, la France a l'un des plus mauvais taux de réussite en licence en Europe.
Et ce MOOC est donc accessible à l'adresse trouvetavoie.net. Le PDG de Radio France sera fixé sur son sort le 31 janvier. Après la condamnation de Mathieu Gallet pour favoritisme pour des contrats passés lorsqu'il dirigeait l'INA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel Gallet a enclenché une procédure pour examiner son cas. Le CSA prévoit d'auditionner Mathieu Gallet le 29 janvier et de trancher donc le 31. Paralysie budgétaire aux États-Unis, des administrations fermées, des services qui fonctionnent au ralenti, quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux au chômage technique, ce sont les conséquences de l'incapacité du Congrès américain à parvenir à un accord sur le budget fédéral. Grégory Phillips, vous suivez les tractations entre les sénateurs, ils s'apprêtent à voter et ils pourraient débloquer provisoirement la situation.
Oui, alors je veux pas trop m'avancer, mais il y a en tout cas une volonté politique affichée de mettre un terme à ce shutdown de la part des démocrates et des républicains. Les sénateurs sont en train de voter sur d'éventuelles rallonges budgétaires qui permettraient de financer à nouveau le gouvernement. Il faut 60 voix sur 100 pour que ça passe, ça veut dire presque tous les républicains et quelques démocrates. Et la solution vers laquelle les sénateurs pourraient s'acheminer, c'est une solution provisoire, à savoir voter le budget pour les 3 prochaines semaines jusqu'au 8 février. Alors pourquoi une solution provisoire? Eh bien parce que d'abord ça permettrait de remettre le gouvernement au travail dès ce soir ou demain matin. Et surtout, ça donnerait 3 semaines supplémentaires aux deux parties pour continuer à discuter du fond du problème. Car s'il y a shutdown aujourd'hui, c'est parce qu'on est en plein bras de fer politique sur un autre dossier, celui des Dreamers. Vous savez, ces jeunes immigrés arrivés mineurs sur le sol américain. Obama leur avait proposé une régularisation temporaire. Trump veut leur retirer. Ce que disent les démocrates depuis plusieurs jours, eh bien, c'est tant qu'il n'y a pas d'accord là-dessus, on ne votera pas les rallonges budgétaires. 3 semaines de plus permettraient donc de poursuivre ces discussions et le vote a commencé il y a quelques minutes. On devrait être fixé dans les toutes prochaines minutes.
Grégory Phillips en direct de Washington. Le vice-président américain Mike Pence applaudit à tout rompre au Parlement israélien. Il a annoncé que l'ambassade des États-Unis ouvrirait à Jérusalem avant fin 2019. Mike Pence passe pour avoir exercé une influence prépondérante sur la décision de Donald Trump. C'est un fervent évangéliste et la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a été largement interprétée comme une concession à cet électorat important pour le président américain. Le reportage d'Étienne Monin.
Dans la colonie de Psagot, sur la colline calcaire qui porte le vignoble local, il y a un petit air de conquête du Far West qui colle aux chaussures des 6 évangéliques venus travailler la vigne pour le compte des Israéliens. Ils appartiennent à une organisation américaine qui organise régulièrement des voyages pour soutenir la colonisation d'Inat Waller.
Absolument, absolument. Il faut que les communautés juives se développent et elles ne sont pas implantées de façon illégale. Ces propriétés ne sont pas illégales.
Tout ça est justifié par la Bible, c'est la feuille de route de ces évangéliques. Elle laisse peu de place aux Palestiniens, pourtant installés sur la même terre, reconnaît Ben Hilton de l'organisation Rayovel.
Oui, c'est la même terre, mais Dieu a promis cette terre à Abraham, pas aux Palestiniens. Il y a une place pour les Palestiniens dans la rédemption du monde. On les aime très fort. Mais pour être bénis, les Palestiniens devront d'abord accepter que le peuple juif est le propriétaire de la terre d'Israël.
Les évangéliques soutiennent aussi l'économie locale. Shimon Berda fabrique des cosmétiques dans une colonie proche de Naplouse. Certains chrétiens prennent des risques financiers, dit-il, pour l'aider à écouler sa marchandise.
Les communautés évangéliques achètent chez nous, représentent à peu près 30% de notre chiffre d'affaires quand même. Ça a commencé, disons, il y a 3-4 ans, par un client que nous avions en Hollande. Et se sont associés d'autres clients, par exemple aux États-Unis, au Texas ou au Danemark également. Ils veulent que l'artisanat des implantations puisse continuer à vivre dans de bonnes conditions.
En Israël, on compte une demi-douzaine d'organisations évangéliques. Elles ont une grosse surface financière. Celle du rabbin Eckstein gère 140 millions de dollars. Pour lui, les chrétiens et Trump viennent de faire sensiblement avancer l'agenda israélien.
Il faut que l'on dise merci au président Trump. Et il faut reconnaître que le président Trump n'a pas été guidé ni poussé par les Juifs ou par Israël. Il a été poussé par les chrétiens. Ils veulent qu'ils soutiennent Israël et qu'ils soient à ses côtés.
La mouvance la plus radicale est celle des chrétiens sionistes. Ils veulent le retour des Juifs sur toute l'ancienne Palestine pour accomplir la prophétie biblique du retour du Messie. L'une de ces organisations finance depuis des semaines une campagne d'affichage dans Jérusalem pour louer l'action de Donald Trump et de Mike Pence.
Étienne Monin, notre correspondant à Jérusalem. Après la décision des États-Unis de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, les Européens avaient reçu le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en décembre. Un mois plus tard, ils ont accueilli Mahmoud Abbas à Bruxelles. Le président palestinien est venu chercher le soutien de l'Union européenne dans sa quête d'un État indépendant. Mais les Européens sont divisés et n'ont pas grand-chose de concret à lui offrir dans l'immédiat. La correspondance de Pierre Benazet.
Les Européens continuent officiellement à fonder leurs espoirs dans la reprise du processus de paix malgré la politique des États-Unis qui la remet en question. La haute représentante pour la politique extérieure de l'UE, Federica Mogherini, a martelé que l'Union continuait à préconiser une solution à deux États. Elle a demandé aux Palestiniens de prouver plus que jamais leur engagement en faveur de négociations. Pour Mahmoud Abbas, de son côté, l'Union européenne doit s'engager encore plus et de manière définitive. Nous saluons les positions de l'Union européenne, nous considérons l'Union européenne comme un véritable partenaire et ami, et nous appelons donc ses États membres à reconnaître rapidement l'État de Palestine. Nous affirmons qu'il n'y a pas de contradiction entre cette reconnaissance et la reprise des négociations. Son appel n'a cependant pas suscité une adhésion particulière auprès des Européens qui ne souhaitent pas mettre le doigt dans un tel engrenage et proposent plutôt des projets économiques et commerciaux en soutien aux Palestiniens.
Pierre Benazet à Bruxelles. La chef de la diplomatie de l'Union Européenne se dit extrêmement inquiète de l'opération militaire menée par l'armée turque dans le nord de la Syrie. Federica Mogherini demande que l'accès humanitaire soit garanti et que la population ne souffre pas des activités militaires sur le terrain. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 22 civils ont été tués depuis samedi dans les bombardements turcs contre l'enclave kurde d'Afrin. Le plus grand stade de Monrovia était plein à craquer. Des milliers de Libériens en liesse sont venus assister à la cérémonie d'investiture de George Weah. L'investiture de l'ancienne star du football devenue président parachève la première transition démocratique au Libéria depuis plus de 70 ans. Le reportage de Cecilia Arbona.
The President of the Republic of Liberia, His Excellency Mr. George Manah Weah.
Face à 35 000 personnes en liesse et devant un parterre de chefs d'État africains venus de Côte d'Ivoire, du Gabon, de Sierra Leone ou du Mali, George Weah, vêtu d'une tunique en satin blanc qui lui descendait jusqu'aux chevilles, s'est adressé au premier adversaire qu'il veut voir tomber. Il faut arrêter de faire passer ses intérêts personnels avant ceux des autres. La corruption n'est pas une excuse pour prendre à d'autres ce qui ne nous appartient pas. Trop de gens ont vécu avec la corruption comme seule règle. Il est temps que ça cesse. Pour aider son pays à se développer, le nouveau président du Libéria veut séduire les investisseurs étrangers. Il a listé les partenaires avec lesquels il souhaiterait travailler, les États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Union européenne. George Weah se porte garant de conclure des marchés honnêtes et transparents.
Cecilia Arbona à Monrovia. Carles Puigdemont est officiellement candidat à la présidence de la Catalogne. Le chef du Parlement régional a validé sa candidature malgré les obstacles juridiques et logistiques. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Aurélie.
Carles Puigdemont, ancien président catalan, est toujours en exil. Installé en Belgique depuis le 30 octobre, il s'est rendu aujourd'hui au Danemark. Et depuis l'université de Copenhague, il a assuré qu'un nouveau gouvernement serait formé prochainement.
Et ce, malgré, je le cite, les menaces de Madrid. Avant d'ajouter, nous n'allons pas capituler face à l'autoritarisme. On le voit, les couteaux sont donc plus que jamais tirés avec Mariano Rajoy. Depuis l'université de Copenhague, Carles Puigdemont a répété que si les Catalans ne peuvent choisir leur gouvernement, cela signifie qu'il n'y a pas de démocratie en Catalogne et que donc voter ne sert à rien. Puigdemont qui a lancé à l'adresse de Mariano Rajoy qu'il était temps que Madrid reconnaisse enfin le résultat des élections du 21 décembre qui ont donné la majorité aux formations indépendantistes. Madrid, de son côté, assiste impuissante à ce nouveau show du président catalan destitué. La Cour suprême a en effet refusé de suivre l'injonction du parquet qui souhaitait réactiver le mandat d'arrêt international visant Carles Puigdemont. Le juge Pablo Llarena a fait de la politique en estimant qu'en fait Puigdemont cherchait un allant au Danemark à provoquer son arrestation. Il aurait souhaité instrumentaliser la justice pour être privé de liberté et être ainsi investi en son absence. L'ancien président catalan réussit en tout cas à exister sur la scène internationale. Il teste aussi sans doute la détermination de Madrid et il faut reconnaître qu'il joue plutôt finement même si ses provocations irritent jusque dans son camp. Demain, il enverra une nouvelle carte postale à l'Espagne depuis le Danemark où il rencontre les députés. L'occasion de s'exprimer cette fois directement sur la situation de la Catalogne et sur sa nomination pour se succéder à lui-même à la tête de la province. Dans le même temps, le président du Parlement a donc fait le constat après ses échanges avec l'ensemble des groupes parlementaires que Carles Puigdemont était le candidat qui avait le plus d'appui. Il a annoncé avoir écrit à Mariano Rajoy pour solliciter un dialogue sincère sur la situation d'exception démocratique dramatique que vit la Catalogne. Roger Torrent se veut, dit-il, un médiateur. Il annonce aussi son intention de s'entretenir avec tous les députés élus de son Parlement, qu'ils soient en prison ou en exil en Belgique. L'affaire continue donc.
Marie-Pierre Vérot, Météo France place le Doubs et le Jura en vigilance rouge inondation. Et 27 autres départements sont en vigilance orange pour pluie, inondation ou avalanche. Demain, le temps sera encore bien nuageux mais plus calme et doux. Les températures matinales varieront entre 3 et 11 degrés, les maximales entre 7 et 17 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.